deux précédents épisodes de notre série philosophique consacrée à l'examen de la notion d'authenticité, nous avons développé ensemble deux points essentiels. Si vous n'avez pas écouté ces épisodes, je vous invite à le faire via le site de Radio Bartas. Premier point, nous avons montré comment la vertu d'authenticité est devenue, paradoxalement, l'un des fers de lance du marketing contemporain en étant transformé en un qualificatif attractif pour les consommateurs. L'industrie du tourisme, par exemple, fait son beurre de la course aux expériences authentiques. Voyager pour vivre comme les locaux, c'est-à-dire pour avoir un aperçu de leur vie quotidienne, ce qui implique d'apprendre à connaître leurs coutumes, manger leurs plats typiques, partager leurs activités et leurs habitudes, etc. De même, pour nos produits de consommation quotidiens, le goût pour l'authentique connaît un sursaut spectaculaire. Les meubles et les vêtements de seconde main, les produits d'alimentation locaux, tout doit faire vrai, avoir du vécu, s'enraciner dans une histoire. Parfois, ces tendances à la survalorisation de l'authenticité vont jusqu'à devenir des sortes de lamentations conservatrices dont nous devrions peut-être nous méfier. Par exemple, un certain discours écologique émerge à l'extrême droite de l'échiquier politique, discours que certains éditorialistes ont nommé localiste, et qui fait, comme son nom l'indique, un usage abusif de la notion de local, de terroir, d'identité, de valeur ou d'intégrité nationale. Bien entendu, s'il semble pertinent de soutenir qu'il faudra relocaliser en partie nos économies et la production pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ce discours tend à gommer d'autres débats également importants qui portent sur la nature même de ce que nous consommons et produisons. Un élevage ou une agriculture locale peuvent ne pas être éthiques, tout comme une énergie produite à l'échelle nationale peut ne pas être décarbonée. Ce discours localiste peut alors être alimenté par la notion d'authenticité, une sorte de nostalgie pour l'ancien temps, la vraie France, celle des clochers et des villages. Dans son livre Authenticity Hoax, le canular de l'authentique en français, Andrew Porter montre ainsi comment sous des airs de vrai, l'obsession pour l'authentique cache en fait une nostalgie parfois réactionnaire, résolument technophobe, contre la technologie et le progrès. Nostalgie alors exploitée par certaines marques qui n'hésiteront pas à nous vendre des produits vintage pour flatter cette tendance. On pourrait croire en première approche que les interactions dans la vraie vie sont par exemple forcément plus authentiques, plus vraies, moins fausses et hypocrites que des interactions par mail ou par message qui permettraient de masquer plus habilement nos émotions. Qui n'a jamais écrit un cordialement alors que le cœur n'y était pourtant pas du tout ? Ou un bien à vous, pas du tout à vous. Pourtant, il y a fort à parier que notre perception de ce qui est authentique ou de ce qui ne l'est pas a bien évolué avec le médium et que nous avons autant un radar pour détecter la vérité physique que la vérité écrite. D'où le remplacement des politesses convenues par des formules qui soulignent l'intention dans nos mails, telles bien cordialement, très cordialement, avec tout mon respect, etc., qui permettent de ne pas être accusés d'utiliser une formule convenue et automatique. Les technologies modernes ne génèrent pas forcément plus de fausseté ou d'hypocrisie en soi, tout dépend donc de l'usage qui en est fait. En bref, notre biais est d'associer peut-être trop fortement authentique avec ancien, et ancien avec vrai ou meilleur. Second point des précédents épisodes, nous avons montré que l'authenticité semble parfois exercer sur nous une fascination. Une attraction que confirment les productions de pop culture avec leurs personnages vrais, voire originaux ou atypiques, parce qu'ils nous permettent, entre autres, d'échapper un temps à la pression exercée par le regard des autres, à la représentation de soi, à l'injonction à la performance, à la société du spectacle. Ainsi, notre rapport à la sexualité est souvent saturé de représentations filmiques et pornographiques, et l'imitation sans conscience de ces modèles et performances tout à fait inaccessibles dans les rapports sexuels peut amener certains d'entre nous à revenir à des rapports intimes plus charnels, tendres et polymorphes. Pourtant, ce n'est pas que ce rapport à la sexualité soit plus authentique, c'est-à-dire plus vrai ou plus réel, plus originel ou plus fondamental, c'est plutôt qu'il se présente comme une manière de résister au modèle dominant de la sexualité. Comme nous l'avons dit dans l'épisode 2, notre attachement à la notion d'authenticité se confond en vérité souvent avec le fait de s'émanciper vis-à-vis des carcans familiaux et sociaux. D'où le sentiment qui peut naître d'être enfin fidèle à soi-même, comme à l'adolescence ou pendant le coming out. Mais que se passe-t-il réellement lors de ces crises ? Dans le fond, nous ne faisons que substituer d'anciennes représentations de nous à de nouvelles. De nouvelles représentations qui servent mieux au déploiement de notre puissance de vie, mais qui restent des représentations. Un nouveau modèle de sexualité, de couple, de façon d'envisager l'amour, reste un modèle. Nous créons de nouvelles fictions d'avenir, de nouveaux nous. En d'autres termes, nous nous fictionnons et nous vivons de fiction. L'être humain est un animal narratif. Il éprouve sans doute un besoin de s'auto-fictionner, de s'inventer et de se raconter. Et dans ce geste, l'authenticité pleine et entière qui consisterait à dire le vrai sur soi sans distance, immédiatement, pour exprimer son être profond, n'est sans doute jamais totalement accessible. Il subsiste toujours une part d'interprétation irréductible lorsque nous nous racontons, qui rend la transparence à soi délicate à atteindre. L'écrivain qui s'est sans doute le plus torturé avec la question de l'authenticité, c'est Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Le titre d'un des plus fameux commentaires de Rousseau, publié par Jean Starobinski en 1976, « La transparence et l'obstacle », résume bien l'ambiguïté même du projet d'écriture de Rousseau. D'un côté, il s'agirait de se raconter, de se dire soi tel que l'on est, de donner à voir non pas son moi superficiel, son moi social, c'est-à-dire Rousseau l'écrivain, mais son moi profond, l'homme véritable, Jean-Jacques. Et d'un autre côté, en se racontant, se crée irrémédiablement un obstacle, une distance. Car on n'écrit jamais seulement pour soi, mais également pour les autres, en s'adaptant à son interlocuteur, au travers des filtres du langage et de l'expression, et au travers de son propre désir de paraître mieux que l'on est. Ainsi, dans les Confessions, Rousseau prétend se raconter, se dire tel qu'il serait, c'est-à-dire tel qu'il serait sorti des mains de la nature elle-même. Et donc, certains épisodes des Confessions sont censés nous mettre face à de l'inavouable. Dans le livre 2 des Confessions, Rousseau rapporte un épisode fameux, celui du vol du ruban chez une certaine Madame de Vercellis. Pour résumer succinctement, Rousseau vole un ruban chez elle et lorsqu'il se trouve soupçonné, accuse à sa place Marion, une servante, d'avoir commis le larcin. Fou de remords au point d'en faire des insomnies, Rousseau raconte la scène en se décrivant notamment comme un démon. Dans le même temps, et c'est toute l'ambiguïté, si Rousseau ne semble pas se ménager et ainsi semble se donner en toute bonne foi et transparence à son public, il ne faut pas oublier qu'il s'agit bien dans cet ouvrage de confession. Or, se confesser, c'est certes dire la vérité en admettant ses torts et ses péchés, mais c'est également vouloir être absous, requérir d'autrui son pardon. Ainsi, l'entreprise de Rousseau révèle-t-elle toute l'ambiguïté de la narration de soi, toute l'ambiguïté de la création artistique elle-même. Nous pensons parfois un peu naïvement que l'art en tant que production est le reflet de l'âme de l'artiste lui-même, de son moi profond, une conception éminemment romantique. Et pourtant, créer, c'est aussi créer une distance avec soi-même, c'est se voir et s'interpréter d'une certaine façon. En d'autres termes, lorsque l'on se raconte soi-même, le fait même de se raconter crée un autre soi, fait naître un nouvel objet qui n'est pas exactement soi-même. Cette distance irrémédiable entre nous et le discours qu'on tient sur nous-mêmes, entre le soi-sujet et le soi qui se prend pour objet de discours, on l'appelle en philosophie la réflexivité. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high. Dans son ouvrage Temps et récits, publié en 1983, le philosophe Paul Ricoeur pose le problème de l'identité personnelle. D'un côté, il est indéniable que nous restons une personne indivisible et une au travers du temps, et que les actions qui nous ont été imputées il y a 10 ans, nous sont toujours imputables aujourd'hui. D'un autre, nous sommes en perpétuel changement, rendant l'idée que nous serions dotés d'une essence, d'une substance permanente qui ne change jamais, suspecte. Ricoeur se pose alors la question suivante. comment rendre compte de cette identité qui dure dans le temps, mais qui change aussi graduellement et inévitablement. Eric Heur de répondre, c'est précisément la réflexivité, c'est-à-dire le fait de s'observer soi-même, de se raconter, de dire son histoire dans le temps, bref, de se narrer, qui fonde l'identité. À la manière des personnages de romans, nous menons des existences qui peuvent être racontées et décrites. Tel événement nous a amené à faire tel choix, telle idée nous a inspiré, telle personne nous a guidé, etc. Notre identité est fondamentalement narrative, nous dit Ricoeur. Vivre et être, c'est en même temps se raconter en train de vivre, dans un récit de soi constamment réalimenté. En d'autres termes, nous instaurons toujours une distance, nous nous fictionnons en permanence. Nous tramons toujours notre existence. La narration, la fiction, la réflexivité créent l'ambiguïté et la profondeur, autant de qualités qui semblent en fait s'opposer à l'injonction permanente à l'authenticité, à la transparence, la vérité et la simplicité. Et s'il fallait assumer le fait même que nous nous échappons, que nous ne savons jamais totalement qui nous sommes. En bref, et s'il fallait accepter que nous sommes toujours en train de nous écrire d'une certaine façon, et que lorsque nous agissons, nous sommes bien mus par une certaine idée que l'on se fait de nous-mêmes et de la façon dont nous devons être. Et si nous vivions fondamentalement d'illusions à propos de nous-mêmes, mais que ces illusions orientaient notre action? Et si nous vivons à travers ces illusions, est-ce que l'essentiel ne résiderait pas dès lors, non pas dans le fait de s'en défaire, mais de reprendre le contrôle sur elle, sur notre récit de vie. Bref, de choisir les illusions auxquelles nous voulons croire et qui nous guident. Car finalement, l'essentiel se joue là. Avoir la possibilité de déterminer soi-même les représentations que nous voulons suivre, de se construire une identité et un récit à soi qui ne soit pas imposé de l'extérieur par les autres ou par la société. Dans un essai de 2013 intitulé « The Faraway Nearby », littéralement « près du lointain » en français, l'écrivaine américaine Rebecca Solnit raconte comment sa vie a longtemps été gouvernée par les prédictions et les récits mortifères que lui faisait sa mère, maladivement jalouse de la liberté et de la jeunesse de sa fille. En somme, c'était sa mère qui l'écrivait, qui écrivait le récit de sa vie, lui rappelant notamment que les femmes se jalousent et rivalisent pour avoir l'attention des hommes. De la même façon, beaucoup de petites filles sont très tôt influencées par la manière dont on les raconte dans les contes. Solnit prend l'exemple de Cendrillon, fiction qui oriente et alimente la dépendance des femmes vis-à-vis du regard des hommes. C'est notamment le rôle de l'image de la pantoufle de verre selon elle. Faire comprendre à la femme qu'elle doit, à l'image du pied de Cendrillon auquel sied parfaitement la pantoufle, savoir sa place pour apprendre à l'occuper sans la déborder. Solnit explique alors comment elle a pris conscience du pouvoir même de la fiction, qui permet aux femmes, mais plus généralement à tout un chacun, de s'émanciper en se racontant au travers de nouveaux récits. Ainsi, de nombreuses écrivaines féministes proposent de réécrire les mythes, les contes et les grands romans pour construire à l'issue de nouveaux imaginaires moins sexistes. L'acte politique par excellence, c'est d'être là où on ne nous attend pas, et la fiction peut avoir dans ce cadre un rôle émancipateur. Elle nous permet de changer, d'évoluer et de ne pas nous réduire à la place que l'on nous a attribuée ou à laquelle l'on s'est soi-même fixé. C'était là ce qui nous avait amené à notre dernière critique face à la notion d'authenticité. Cette notion, parce qu'elle semble impliquer que nous soyons fondamentalement quelque chose en particulier, par exemple colérique, orgueilleux, méchant, soumis, fainéant, ou même drôle, gentil, intelligent, serviable, bref, parce qu'elle tend à nous réduire à des qualités, nous enferme dans un rôle, un carcan, et peut nous empêcher de changer. En d'autres termes, elle peut aussi nous empêcher de continuer la vie elle-même. Se révolter et vivre, c'est au contraire s'écrire différemment, se penser différemment de ce que l'on est. C'est poser devant soi un nouvel idéal, le viser pour essayer de l'atteindre. Si, comme le veut le proverbe, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, alors c'est en agissant que l'on devient, que l'on se transforme. Autrement dit, c'est bien d'abord par le jeu, la représentation, en s'amusant à faire comme, que l'on peut changer. Changer implique de se mentir à soi-même, paradoxalement. C'est se bricoler un nouveau soi, une nouvelle identité, en agençant différemment les éléments de son passé. Rester fidèle à soi-même, être authentique coûte que coûte, c'est au contraire s'interdire le changement. En ce sens, la rhétorique de l'authenticité a tendance à se placer du côté de la stagnation et du conservatisme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais donc examiner avec vous la possibilité de dépasser l'impératif d'authenticité pour assumer le jeu de la fiction et ainsi du changement et de l'adaptation. Vous écoutez Ben, et aujourd'hui nous allons parler de ces identités bricolées qui sont les nôtres.
Un sacristain m'avait enfin prédit que je vieillirais à l'ombre d'un mari. J'aurais besoin de vivre sous la tutelle d'un homme serviable, courageux et gentil. Que je deviendrais une femme conventionnelle pour m'éviter toutes sortes d'ennuis. Et pourtant, moi aujourd'hui, j'emmerde les conventions de tout Paris. Je suis devenue célèbre, riche et belle. Je n'écoute plus les hommes et leur mépris. Je n'ai que faire de toutes leurs bagatelles. Moi je suis seule à diriger ma vie. Je suis devenue célèbre, riche et belle.
Dans l'avant-propos à son ouvrage La Condition Postmoderne, publié en 1979, le philosophe Jean-François Lyotard définit ce qu'il appelle la postmodernité ou le postmodernisme. Le postmodernisme correspond à l'âge de la fin des grands mythes collectifs, des grands récits modernes auxquels croyaient l'ensemble des individus et des sociétés. Quels sont ces grands récits collectifs ? La raison, le progrès, l'humanité avec un grand H, le sens de l'histoire, Dieu et la religion, ou encore les idéaux politiques en sont des exemples. Dans les années 90, avec l'effondrement du bloc soviétique, s'effondrerait du même coup le dernier grand mythe, celui de la possibilité d'une société sans classe, d'une alternative sérieuse au capitalisme. Le postmodernisme est donc associé au courant qu'on appelle désormais déconstructiviste, c'est-à-dire au courant qui entend déconstruire les grands discours idéologiques, comme par exemple la science ou le progrès, mais encore à plus petite échelle, le genre ou la sexualité, pour montrer, en somme, qu'ils sont relatifs et qu'ils dépendent de l'histoire. Cette fin des grands mythes a un pendant esthétique et artistique, la fin des grands styles, des grands genres artistiques. La création moderne serait désormais davantage un collage, un assemblage d'influences diverses et hétéroclites, un ensemble en somme composite et éclectique de citations de l'art qui nous a précédés, mais sans motivation réelle, sans projet précis. La pop musique contemporaine a régulièrement recours à l'échantillonnage, par exemple dans ce morceau de Dua Lipa. Qui échantillonne un passage du morceau plus ancien de White Town. La postmodernité ou postmodernisme a donc deux caractéristiques. La fin de l'originalité d'une part, c'est-à-dire qu'on ne croit plus en la capacité à créer du nouveau dans l'histoire ou en art, et surtout en l'intérêt de la recherche du nouveau. Et la naissance de l'ironie comme condition générale des individus en société, qui ne croiraient plus en rien, qui ironiseraient en permanence sur ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils créent. Qui dit ironie, dit ne plus croire en ce qu'on incarne, donc fin de l'authenticité, fin de la vérité de soi à soi. Ainsi, le postmodernisme a souvent chez les théoriciens et philosophes un sens très péjoratif, et désigne cette nouvelle ère du capitalisme où chaque individu en quête d'identité et ne pouvant plus se reposer sur un récit commun, comme le progrès social, l'histoire, la science, la politique, etc., consomme de la culture sans faire culture commune. En somme, une ère où chaque individu se bricole une identité à partir d'influences diverses, sans se regrouper et constituer un socle commun. La postmodernité serait une condition de solitude et d'égarement, où notre existence ne s'inscrirait plus dans un sens global, dans un projet social où les individus ont à cœur de le défendre. Le film Goodbye Lenin, réalisé en 2003 par Wolfgang Becker, montre avec intelligence cette ère de la fin des grands mythes avec l'effondrement du communisme. Le film raconte la vie d'une mère et de son fils lors de l'effondrement du mur de Berlin en RDA communiste en 1989. La mère est victime d'un infarctus et tombe dans le coma juste avant la chute du mur. Lorsqu'elle en sort, le bloc soviétique n'est plus, et le modèle libéral capitaliste américain semble avoir triomphé. Dans le film, son fils prend alors la décision d'essayer de lui cacher la chute du communisme afin de la préserver d'un choc affectif majeur qui pourrait provoquer un nouvel infarctus. Le récit, à la fois drôle et touchant, montre les multiples stratégies que le fils emploie pour tenter de faire continuer à vivre pour sa mère le projet d'un monde commun désormais disparu. Avec le postmodernisme, à la fois l'originalité mais aussi la certitude d'être soi, d'être attaché à une communauté d'origine nettement identifiable, disparaissent. La condition postmoderne est donc une condition individualiste, déracinée et en mal d'identité bien définie. Pourtant, dans le même temps, le constat de la postmodernité n'appelle pas forcément au fatalisme et fait également de belles promesses. En faisant s'effondrer les mythes collectifs et sociaux, notre époque libère en même temps les individus des carcans hérités et leur donne donc plus de marge de manœuvre pour se réinventer. Elle permet de saisir la contingence de nos modèles et peut donc stimuler la créativité pour reconstruire, rebâtir, repenser sur des bases saines. La pensée postmoderne conserve toutefois le constat réaliste que les individus sont bien d'abord conditionnés, construits, situés. Donc ils n'ont jamais été véritablement authentiques, c'est-à-dire fidèles à une essence profonde, indépendante de la société, mais au contraire qu'ils sont les reflets de leur milieu des influences multiples auxquelles ils ont été soumis au cours de leur existence. En d'autres termes, la pensée postmoderne nous permet de saisir que nous sommes la résultante de multiples processus et qu'en prendre conscience et les déconstruire permet de nous dégager une certaine liberté pour repenser, changer, faire autrement, créer de nouveaux narratifs. Bref, penser d'autres fictions, bricoler de nouvelles identités et de nouvelles valeurs. Si nous sommes un mélange d'influences, à nous de sélectionner les influences que nous voulons conserver. Par exemple, si l'on hérite d'un modèle très convenu de sexualité, le déconstruire permet de dégager de nouvelles possibilités, des contre-modèles. La postmodernité peut donc ouvrir une ère de réflexivité critique. L'idée que nous sommes un mélange d'influences remet donc en question les notions d'originalité et d'authenticité. Nous ne sommes plus originaux si nous ne faisons que compiler des apprentissages, et nous ne sommes plus authentiques si nous sommes le reflet de nos conditionnements sociaux. Ce qu'on appelle postmodernisme vient donc mettre en faux une certaine interprétation du romantisme dont nous sommes les héritiers. Si le postmodernisme est l'ère de la fiction, de la réflexivité, la notion phare du romantisme était au contraire celle d'authenticité. On fait généralement débuter le romantisme au 19e siècle, mais ses influences et références majeures remontent à la fin du 18e siècle, avec Rousseau dont nous avons déjà parlé, mais aussi avec l'écrivain Goethe et le philosophe allemand Kant. En tant que mouvement historique, le romantisme s'opposait au classicisme et entendait libérer les arts des règles et canons de composition classique, comme la bienséance au théâtre, par exemple. En insistant sur la notion d'expression personnelle et intime de soi, d'authenticité de l'auteur, le romantisme s'opposait au maniérisme des conventions classiques de l'art. Il a ainsi accompagné la Révolution française et l'abolition de la société d'ordre. Le romantique est un individu authentique, car il ne se réduit ni à sa classe sociale, ni à sa société tout court. Même, l'individu romantique oppose souvent son monde intérieur et le pense à part du monde réel, distinct du monde réel. Le roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, véritable banger du XVIIIe siècle, met en scène le personnage de Werther, un jeune roturier qui tombe fou amoureux d'une femme, Charlotte, inaccessible car déjà promise à un autre homme. Impossibilité amoureuse mais aussi impossibilité sociale, car Werther, en tant que roturier non noble, prétend à un statut qu'il ne peut avoir. Dans l'une des scènes du roman, Werther est exclu d'un salon de billard pour cette raison. Humilié, furieux devant l'attachement des nobles à l'étiquette, il se réfugie dans la nature pour lire Homère seul. Devant cette humiliation amoureuse puis sociale, Werther se suicide à la fin du roman. Cette œuvre fondatrice du romantisme promeut l'authenticité du personnage de Werther. Werther est l'auteur, amour véritable mais impossible. Werther un corps qui ne s'intéresse pas au statut d'une personne, mais uniquement à ses qualités propres. Werther, incompris par sa société. On voit en sous-texte l'aspiration à une société sans ordre, où les individus pourraient enfin être appréciés pour qui ils sont véritablement. D'où une telle insistance dans le romantisme sur les notions d'originalité et d'authenticité. Être original et authentique, c'est résister aux injonctions du classicisme, mais également aux injonctions du statut social. C'est pourquoi le romantisme va réintroduire la notion de génie. Le génie, c'est celui qui est capable de créer sans règles, c'est celui qui se passe des conventions, des codes, de l'apprentissage, et qui crée pourtant des chefs-d'œuvre. Dans la critique de la faculté de juger, Kant définit le génie comme celui dont la nature prescrit ses règles à l'art. En d'autres termes, c'est le génie qui fait école, et non l'école qui fait le génie. On imite le génie, il est exemplaire, mais le génie, lui, n'imite pas. Il est donc original. Le romantisme s'emparera de l'idée du génie formulée par Kant, en l'opposant à l'apprentissage et donc aux conventions classiques. L'art véritable est l'expression directe, immédiate, d'un individu exceptionnel, et non le scrupuleux respect des règles. Par là, le romantisme semble nier l'idée même que l'individu soit le reflet de sa société ou de son éducation. Bref, qu'il soit la résultante d'influence, comme nous l'avons dit. En un sens, donc, c'est le romantisme qui annonce l'individualisme moderne, en faisant de l'individu le dépositaire entier de ses capacités et de son être, comme s'il pouvait s'exprimer en son nom, sans rien ne devoir de ce qu'il est aux autres qui l'entourent. De là à dire que le romantisme annonce le « There is no society » de Margaret Thatcher, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Dans une très belle lettre à son ami Eckermann, Goethe, bien qu'il soit l'une des plus grandes icônes des romantiques, mettait déjà en garde contre l'idée de génie. Il écrivait ainsi avant de mourir « Au fond, nous avons beau faire, nous sommes tous des êtres collectifs. Ce que nous pouvons appeler notre propriété au sens strict, comme c'est peu de choses. Et par cela, comme nous sommes peu de choses. Tous, nous recevons et nous apprenons, aussi bien de ceux qui étaient avant nous, que de ceux qui sont avec nous. Qu'y a-t-il de bon en nous, si ce n'est la force et la tendance à nous approprier les éléments du monde extérieur ? Nous approprier les éléments du monde extérieur. Voilà qui s'oppose à la notion d'authenticité. Nous sommes le résultat du monde, du social, et ce qui nous semble être l'expression de notre nature n'est souvent que le reflet de notre environnement. L'avantage de l'époque postmoderne dans laquelle nous vivons, c'est d'assumer ce fait et de nous inviter à la fiction, au jeu et à la représentation de soi, donc à l'assemblage, au collage des influences dont on est le résultat. Bref, au bricolage, à partir de notre héritage, de notre identité. Mais pourquoi la fiction est-elle donc si importante et pourquoi l'authenticité est-elle un leurre ? L'authenticité nous attache à ce que nous croyons être, au passé. La fiction, en nous autorisant à imaginer ce que nous pourrions être, nous tourne vers l'avenir. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, dans toute son œuvre, n'aura eu de cesse de souligner combien la fiction et l'illusion sont vitales. Pour vivre, c'est-à-dire pour résister à la souffrance, à la perte et au changement, et ainsi persévérer dans son être, Nietzsche prescrit la création, l'illusion, la fiction. La fiction sert la vie, l'alimente. Pour supporter la souffrance et lui donner un sens, il faut l'interpréter, il faut l'insérer dans un récit de vie afin de mieux s'y préparer et de mieux y résister. C'est le sens de la fameuse maxime de Nietzsche, « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort », ou encore de celle-ci dans la préface à « Ainsi parlait Zarathoustra », « Il faut porter un chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante ». À la manière des tissus de la peau qui se renforcent lors de la cicatrisation, la souffrance peut améliorer les capacités d'adaptation de l'individu dans une certaine mesure et à condition qu'il l'assimile correctement. C'est pourquoi pour Nietzsche, les fictions doivent alimenter la vie, nous permettre d'interpréter la souffrance, de l'assimiler, pour accroître l'amour de la vie. Croire ainsi en votre perfectibilité, en votre capacité d'auto-amélioration et de changement, c'est servir la vie. Mais Nietzsche rappelle que certaines fictions peuvent dès lors être mortifères, nuire à la vie. Ce sont toutes ces fictions que Nietzsche appelle dans le crépuscule des idoles, des arrière-mondes, qui nous font croire par exemple à des réalités éternelles comme l'âme ou Dieu, et nous consolent en nous empêchant d'accepter la vie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire éphémère et changeante. En d'autres termes, nous dit Nietzsche, il faut toujours rester en mouvement, s'adapter, se préparer à changer, cultiver de nouvelles fictions, en permanence et selon les besoins de la situation. Mais les fictions qui nous font croire que les choses peuvent être permanentes, comme l'authenticité, qui nous fait croire à une sorte de permanence de notre être dans le temps, ou nous rattache à des versions passées de nous, ont un potentiel mortifère, nous éloignent de la vie. La fiction doit accompagner une augmentation de notre propre être, de notre potentiel d'acceptation de notre propre destin et de la vie pour ce qu'elle est. En d'autres termes, la fiction peut et doit être motrice d'un changement, d'une adaptation. Comment la fiction, ou la représentation, peuvent-elles permettre de changer? Comme nous l'avions dit en épisode 2, nous pourrions imaginer qu'un jeune prof joue à être prof, se fictionne lui-même en tant que professeur, pour parvenir à se mettre dans la peau du personnage, parvenir à devenir prof. Comme pouvait le dire Sartre, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que nos actions et nos habitudes déterminent qui nous sommes. En d'autres termes, performer, incarner quelque chose que l'on n'est pas, peut nous permettre progressivement, en cultivant une habitude, un pli, de nous transformer. Cela renvoie à la notion de performativité. La performativité désigne à l'origine les termes et les mots du langage courant qui font advenir la réalité qu'ils énoncent. Par exemple, lorsque l'on déclare deux personnes mari et femme. De la même façon, dire d'une fiction ou d'un comportement qu'ils sont performatifs, c'est signifier par là qu'ils viennent progressivement modifier la structure même de notre être, de notre comportement et de notre identité. Ou pour le dire encore plus simplement et dans les termes de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Cette notion de performativité a notamment été appliquée au genre par la théoricienne féministe Judith Butler, dans son ouvrage « Troubles dans le genre » paru dans les années 90. Elle explique ainsi que le genre dans nos sociétés est performatif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas en soi un genre féminin ou masculin, mais que le genre est constitué par l'ensemble des performances, des actions, des individus. Ce qui définit le genre féminin dans une société, c'est la façon même dont les femmes se comportent et agissent. C'est en tant que les femmes agissent en se reconnaissant femmes, qu'elles définissent le genre femme et qu'elles se sentent femmes. Autrement dit, ce sont les gestes expressifs du genre qui contribuent à former l'identité de genre femme. Comme ce genre de femme n'existe pas en soi, Judith Butler en tire la conclusion que les genres et non les sexes biologiques, sont culturellement institués. Ceci peut être particulièrement intéressant dans le cas de la transidentité. Les personnes transgenres ont souvent le sentiment d'une identité de genre dissonante avant même de l'exprimer. Et parfois, c'est au travers précisément de l'expérimentation dans l'expression de leur genre, une expérimentation vestimentaire, vocale ou autre, qu'elles peuvent contribuer à réduire leur sentiment de dysphorie. Le film The Danish Girl, sorti en 2015 et réalisé par Tom Hopper, raconte une des premières transitions de genre de l'histoire moderne, celle de Lily Elbe, une artiste danoise. L'évolution de son personnage dans le film est très intéressante. Le point de départ du récit ne semble être qu'un jeu avec sa partenaire et épouse, Gerda Wegner. Il s'agit de travestir Lily, qui pense alors être un homme, avant de se rendre à un événement mondain. Ce jeu dégénère pourtant assez vite lorsque Lily, se laissant séduire par un homme, s'échappe avec lui, l'embrasse, puis se rend progressivement compte, en réitérant l'expérience du travestissement, de son attachement à sa nouvelle peau de femme. Elle prend alors conscience de son identité véritable au travers de ce qui paraissait n'être qu'un jeu. Ce qui donc se donnait pour une performance impliquait en vérité une modification profonde de la perception de son être. Dans son ouvrage « Les jeux et les hommes », publié en 1967, Roger Caillois distingue quatre types de jeux, dont deux nous intéressent particulièrement. La mimicrie, l'imitation, qui consiste à incarner un personnage que l'on n'est pas, comme lorsqu'un enfant joue au pompier, et l'ilinx, dont le but est de produire des vertiges, des sensations fortes, et de modifier la perception de l'individu. Roger Caillois identifie entre ces deux jeux, mimicrie et ilinx, un glissement possible. Le moment où le fait d'imiter, performer un personnage, peut en fait provoquer des changements profonds de perception de sa propre identité. F, où le jeu d'imitation se révèle non pas imitation, mais dévoilement. Et donc transformation de notre perception de notre être. Ce passage entre mimicrie et ilinx est très intéressant parce qu'il montre que ce que nous croyons un temps être fiction peut se montrer comme vérité et inversement. La perception que nous avons de nous peut évoluer avec le jeu et la représentation, voire notre être lui-même peut se modifier. Et cette modification peut avoir une portée politique. Ainsi, se rendre en manifestation féministe quand on est un homme peut nous changer même si l'on n'y croit pas au début. En somme, donc, nous vivons et nous nous construisons par la représentation. Nous nous adaptons par la représentation. En bref, notre être a toujours une certaine plasticité qu'il est important de cultiver. L'éthique derrière la reconnaissance de cette importance de la représentation dans nos vies est donc de demeurer vulnérable, de conserver une certaine réflexivité, de toujours se savoir potentiellement autre, changeant, modifiable. Bref, de garder toujours une distance nécessaire avec les étiquettes que nous pensons incarner. À partir de là, donc, se pose la question de savoir si tout le monde a accès à la capacité de changement de manière égale, donc peut s'adapter à de nouveaux environnements de manière effective, à de nouveaux rythmes. En bref, si les conditions même dans lesquelles nous sommes nous permettent ou non de cultiver cette capacité d'adaptation, cette plasticité. Or, il est manifeste que précisément les individus ne disposent pas de la même plasticité, des mêmes outils pour s'adapter aux rythmes et aux exigences de la société. La question des conditions matérielles et intellectuelles dans lesquelles se trouvent les individus ne doit en effet pas être évacuée. Il est évident qu'une personne âgée, par exemple, ne dispose pas des mêmes capacités de réinvention et d'adaptation qu'une personne plus jeune. Mais alors, est-ce que l'authenticité ne fait pas fond sur un autre problème? De quoi ont peur ceux qui parlent d'authenticité? Du changement, sans doute. Mais peut-être venons-nous de mettre le doigt sur le fait qu'ils ont aussi peur du rythme du changement, aujourd'hui toujours plus rapide, toujours plus exigeant avec les individus qui doivent s'adapter en des temps records. Selon la philosophe Barbara Stiegler, l'une des caractéristiques de notre modèle de société néolibérale est d'exiger des individus de s'adapter toujours plus vite aux conditions sociales. Dans son ouvrage « Il faut s'adapter », paru en 2019, celle-ci montre comment le néolibéralisme, dès sa naissance théorique dans les années 30, s'est notamment emparé du discours biologique de l'évolution de Darwin pour l'appliquer à l'ensemble de la société. Les théoriciens néolibéraux reprennent ainsi les idées de Herbert Spencer, un philosophe britannique de la fin du 19e siècle qui a théorisé ce qu'on appelle aujourd'hui le darwinisme social, c'est-à-dire l'idée que ce sont les individus les plus talentueux, les plus aptes, the fittest en anglais, qui s'adapte à la société capitaliste. Barbara Stiegler nous invite à nous méfier de ces applications du discours biologique à la théorie de la société et du changement individuel et social, et introduit la notion de rythme différentiel selon les individus et les catégories sociales. Dans Nietzsche et la vie, son commentaire de la pensée de Nietzsche, elle rappelle que pour Nietzsche, s'il est vrai de dire que la vie exige une capacité de réajustement constant au changement, comme nous l'avons montré, Il faut néanmoins respecter le rythme même d'assimilation et de changement des vivants. Ainsi, Nietzsche s'inquiète dans ses fragments écrits à la fin du XIXe siècle de l'avènement du télégraphe, qui semble annoncer une société au rythme changement trop rapide, trop brusque, ne laissant plus aux individus la capacité de s'adapter à leur rythme. En conséquence, pour Barbara Stiegler, le constat de Nietzsche appelle à repenser les conditions sociales pour justement permettre aux individus de retrouver leur rythme propre de changement. On comprend dès lors d'où vient l'attachement à l'authentique quand tout change trop vite. Lorsque la course technologique est engagée, qu'on exige des plus anciens d'entre nous d'apprendre à maîtriser un smartphone, à un ordinateur et avec ça Internet, les services publics dématérialisés, les prises de contact par mail et visioconférences, et des plus jeunes de se déraciner complètement pour faire leurs études, trouver un emploi sur un marché très compétitif en se formant très rapidement, parfois sur le tas, dans leur nouvel emploi, la nostalgie pour des modes de vie plus simples, où le déracinement total, par exemple, n'existait pas, devient très compréhensible. C'est pourquoi il est important de donner aux individus les ressources intellectuelles, morales et physiques de s'adapter à leur environnement, mais aussi de s'interroger et de lutter contre l'accélération du rythme même de nos sociétés. Ce rythme est même intériorisé. La prochaine fois que vous sortez marcher, interrogez-vous sur le rythme de votre marche et demandez-vous si vous marchez véritablement à votre rythme, en privilégiant la lenteur et la disponibilité. Plutôt que de valoriser une authenticité soi-disant perdue, de s'accrocher en somme à une sorte d'ancien temps ou d'ancien soi qui serait moins fake que l'époque moderne, peut-être est-il donc plus légitime de s'interroger sur comment bien changer et accompagner le changement, sur le changement légitime et sur celui qui ne l'est pas. En somme, sur comment bien s'adapter, en critiquant la façon dont cette course à l'adaptation est instrumentalisée pour justifier toujours plus les inégalités socio-économiques et l'accélération du rythme social. Conserver en ces temps de grand galop social, non pas notre prétendue identité véritable, la nôtre ou celle de notre pays, mais plutôt la distance, la mesure, et surtout, autant que faire se peut, la lenteur qui sont nécessaires à toute réflexion critique. La panique identitaire autour de l'authenticité nous rappelle donc encore et toujours à une exigence, celle de l'esprit critique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à suivre la page Instagram de l'émission, @lesvanupieds, et à la relayer sur les réseaux sociaux. C'était Ben pour Les Vanupieds, et je vous dis à la prochaine. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, waiting.
wasting time.